Il est 18h dans le studio Kalangou, l'heure du journal, dans une présentation de Nafis Adam Sirfo. Les titres, 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et 100 000 francs d'amende, c'est le délibéré ce matin de la cour d'appel de l'affaire qui oppose le journaliste Baba Alpha au ministère public. Son avocat se prononce dans ce journal. Dans la commune de Dirkou, région d'Agadez, l'économie est en baisse et le désœuvrement des jeunes en hausse, les raisons dans quelques instants. En partie magazine, nous vous parlerons du nouveau type de dictée instaurée au secondaire par les autorités actuelles. Bonsoir à tous et bienvenue. La cour d'appel de Niamey, en son audience publique de ce jour 12 mars 2018, a déclaré le journaliste Baba Alpha coupable d'usage de faux en écriture publique. Il est coupé de 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et 100 000 francs d'amende. Hassan Oumarou, avocat de Baba Alpha, dit que le premier jugement est cassé. Il est au micro de Habibou Garba.
Ce procès d'une longue haleine a fini par être vidé. Baba Alpha a pris 2 ans, dont 1 à sortir de sursis. Donc, ce qui veut dire que le délai de sa détention arrivait à 1 an, il sort de la prison. Cependant, par rapport à la dégradation civique, la cour ne s'est pas prononcée. On va voir dans quelle mesure on va faire appel. Même si par ailleurs la cour a annulé le jugement, mais il ne s'est pas prononcé sur la dégradation civile. Nous, on considère que cet état de fait, que l'article 21 n'est plus applicable à Baba Alpha. Donc il retrouve ses droits civiques en l'espèce.
À noter que le père du journaliste Maman Alpha et le sieur Abdelkarim Sidi écopent de la même peine dans cette affaire. En bref, dans sa parution de ce lundi 12 mars 2018, le quotidien indépendant nigérien d'information L'Enquêteur relève une dissension interne à la mouvance pour la renaissance du Niger MRN. En effet, selon le journal, le MPN Kinshasa et le RSD Gaskia se démarquent de la mouvance présidentielle, notamment dans la conduite du processus électoral. Leur première préoccupation, c'est la composition de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La deuxième, c'est la composition du bureau de vote et la troisième préoccupation porte sur le fonctionnement de la CENI. J'ai au téléphone par le studio Kalangou, le secrétaire à la communication du MPN Kinshasa affirme que le bureau politique va se réunir pour examiner la question. Du côté du RSD Gaskia, aucune voix ne veut se prononcer pour le moment. Après la 6e marche des organisations de la société civile nigérienne contre la loi des finances 2018 et celle de la mouvance qui soutiennent cette loi, qu'en pensent les citoyens ordinaires, ce matin, Soumana Amadou est allé rencontrer quelques-uns de la ville de Niamey pour recueillir leur avis. On les écoute.
Nous, les peuples, nous sommes économiquement fatigués. Les charges que l'État nous impose à travers la loi des finances, sincèrement, le peuple ne peut pas. Et le cadre organisationnel qui permet d'entendre la voix du peuple, c'est ça que la société civile porte. Donc vraiment, je suis pour cette lutte-là, à 100%.
Ils doivent continuer la lutte pour informer les autres qui n'ont pas bien compris de quoi il s'agit. Personne ne soutient cette loi des finances, sauf ceux de la majorité au pouvoir. Et eux aussi finiront par comprendre qu'elle n'est pas une bonne chose.
Que ce soit ceux de la majorité au pouvoir ou les autres, tous doivent temporiser. Les dirigeants doivent aussi avoir pitié des pauvres populations. Mais si cela ne freine pas au développement du pays.
Propos recueillis par Soumana Amadou, les coupures d'électricité sont devenues récurrentes à Arlit. Le maire d'Arlit a fait le déplacement de Niamey pour rencontrer les plus hautes autorités. Il a eu l'assurance que dans les prochains jours, la situation va connaître une amélioration. Abdourahmane Mouli, maire d'Arlit, que je vous propose d'écouter.
Lorsque la ministre de l'énergie était à Arlit, nous avons évoqué cette question. Elle a pris l'engagement. Elle m'a demandé de lui rappeler pour l'acquisition d'un grand groupe électrogène. Comme à Arlit, la Nigelec n'en possède pas. Donc au cas où la Sonichar ne nous fournit pas de l'électricité, il n'y a pas un autre moyen pour alimenter la ville en électricité. J'ai envoyé une lettre à la ministre pour lui rappeler. Une semaine après, je suis allé la rencontrer. Elle nous a assuré qu'elle a reçu notre lettre et qu'elle a écrit une autre elle-même. Elle a ordonné d'amener un grand groupe électrogène à Arlit pour que la ville s'en sert en cas de coupure à la Sonichar. C'est une bonne nouvelle qui nous réjouit beaucoup. Nous n'avons pas encore acquis le groupe, mais on nous a fait savoir qu'il sera bientôt déposé au poste 132 où la Nigelec peut l'utiliser. Elle a écrit au directeur général de la Nigelec et nous nous sommes rencontrés avec le premier ministre. Il a pris l'engagement. Dans peu de temps, la ville d'Arlit aura ce groupe électrogène.
Propos recueillis par Ousmane Oumarou. Fréquente et importante coupure d'électricité depuis plusieurs semaines à Agadez et Arlit où la société nigérienne d'électricité Nigelec procède chaque 4 heures à un délestage dans les différents quartiers. Abdourahmane Ousmane Koutata, président du conseil régional des jeunes d'Agadez, appelle la Nigelec à respecter ses engagements vis-à-vis des abonnés. Il est au micro de Moussa Maman.
Nous pensons que la Nigelec a le devoir devant sa clientèle de faire en sorte que nous sachions quel est le problème, quand est-ce que cela va finir et quelles sont les solutions qu'ils ont proposées. Je crois qu'en tant qu'abonné, en tant que client, la population a droit à ce qu'on lui dise le problème qu'il y a réellement. Maintenant, nous voulons que la Nigelec prenne ses responsabilités par rapport aux services qu'elle vend aux gens. Parce que c'est des prestations, les gens payent les factures à la fin du mois, je pense qu'ils doivent être satisfaits. Dans d'autres villes, la Nigelec s'est débrouillée pour qu'il y ait des groupes électrogènes afin de réduire les souffrances des populations. Aujourd'hui, combien de commerces sont au ralenti à Grèce? Aujourd'hui, combien de personnes ont perdu leurs produits marchands à cause de ces coupures? Alors, nous vous demandons à la Nigelec d'une manière la plus simpliste, vraiment de faire en sorte que la fourniture en électricité soit permanente.
Économie en baisse à Dirkou et oisiveté grandissante des jeunes, la fermeture du site d'orpaillage du Gado et l'arrêt de la migration seraient la cause principale de cette situation. Notre correspondant Anissé Karim était sur place, voici son reportage.
La commune rurale de Dirkou puise son économie dans le commerce et le transport. Depuis la fermeture du site de Gado et l'arrêt du trafic migratoire, les activités économiques de la zone sont en difficulté. Témoignage de la population sur place.
Maintenant, on ne gagne rien. Avant, on fait marchandises 3 millions, 4 millions, 5 millions, on gagne. Mais maintenant, même 50 000, on ne gagne pas. Voilà. Il n'y a pas de circulation. Les gens, ils sont pauvres maintenant.
Selon les autorités départementales, des mesures sont en train d'être prises afin de relancer l'économie, confirme Boudou Fatimi, préfet du département de Bilma.
Le ministre de l'Intérieur qui est venu ici, par deux fois, ils ont pris l'engagement de réouvrir le site. Nous avons préparé des lois qu'on a soumises à l'Assemblée. Je crois que ça va même passer. D'ailleurs, il y a une mission qui est venue depuis plus de deux semaines sur le site du Gado pour délimiter le terrain. Quand ils auront fini leur travail, ils vont retourner à Niamey et je crois que la réouverture ne va pas tarder.
Ensemble, les populations demandent aux plus hautes autorités du pays de prendre les mesures qui s'imposent afin de sauver l'économie du département de Bilma en difficulté. Anissé Karim, depuis Dirkou pour le studio Kalangu.
Une mission du ministère de la Santé publique sillonne trois régions du pays. Après Difa, la délégation conduite par Dr Abachi Ranaou était samedi à Zender. C'est dans le cadre de la réunion du plaidoyer sur la vaccination de routine. Dans la région de Zender, des progrès ont été réalisés, mais des défis demeurent, notamment la vaccination des populations d'accès difficile. Dr Abachi Ranaou, secrétaire général du ministère de la Santé publique.
Le ressort des analyses des activités de routine que 12 382 enfants n'ont pas été vaccinés au Penta 3, dont la plupart se retrouvent dans les sites sanitaires de Taketa, qui présente une couverture de 77% contre un objectif attendu de 95%. D'autres contraintes ressortent comme l'inaccessibilité dans la zone de Tasker, la mobilité de la population, tant nomade que sédentaire, dans les districts sanitaires de Tanout. Les données de vaccination de routine montrent également que depuis 2014, les districts sanitaires de Gouré et de Myria sont constamment dans la catégorie des districts ayant enregistré plus de 1000 enfants non vaccinés, avec pour l'ensemble de la région plus de 3% d'enfants manqués lors des vaccinations.
Dr Abachi Ranaou, secrétaire général du ministère de la Santé publique au micro de Ali Keta. Un projet de loi sur la communication audiovisuelle a été adopté en Conseil des ministres le 8 mars dernier. Que faut-il comprendre dans ce nouveau texte sur la communication audiovisuelle au Niger? Réponse avec Souleymane Anza, secrétaire général du Conseil supérieur de la communication au micro de Asmana China.
Ce projet de loi sur la communication audiovisuelle vient reprendre l'ordonnance 93. Il reprend cette ordonnance, il la complète en donnant d'autres nouvelles informations. Mais pour l'instant, nous n'avons pas à notre disposition ce projet de loi qui a été adopté par le gouvernement pour pouvoir rentrer dans les détails par rapport à ça. Il faut que ça soit envoyé au niveau de l'Assemblée nationale qui va se prononcer sur la question et donner le texte définitif. Je peux tout simplement vous dire que ce projet de loi sur la communication audiovisuelle a été pris en fonction de l'avènement de la télévision numérique terrestre, la TNT. L'ancienne ordonnance, à l'époque, ne parlait pas de TNT parce que ça n'existait pas. Maintenant que la TNT est en voie d'être mise en œuvre au niveau du pays, donc effectivement, il faut qu'il y ait un projet de loi qui va réglementer ça.
Du sport en bref, à deux buts hier dimanche 11 mars 2018 de la 12e journée du championnat national de football, la première division sur toute l'étendue du territoire national. 6 matchs ont été joués, l'Entente de Dosso et l'AS Douane de Niamey se sont quittés sur un match nul à 1-1. L'Union sportive de la gendarmerie nationale s'est inclinée face à l'AS Garde à 2-0. L'Olympique de Niamey et l'Association sportive nationale de la Nigélec ont fait match nul 3 buts partout. Victoire de l'AS Police de Niamey contre Jongorzo FC de Maradi 1-0. Victoire également de l'AS Fan de Niamey face à l'Urana d'Arlita 1-0. Les deux autres matchs de la journée sont prévus pour le 17 mars 2018. À présent, la partie magazine de cette édition. Cela fait plusieurs années que la dictée a été supprimée du programme scolaire au Niger, mais depuis 2017, un nouveau type de dictée a été introduit par les autorités actuelles. Medaji Mahamadou, directeur général des formation, examen et concours au ministère des enseignements secondaires revient sur les raisons de la suppression de la dictée traditionnelle. Il explique les implications de ce tout nouveau type de dictée.
Une étude a été menée et les résultats au BEPC sont catastrophiques parce que l'essentiel des candidats au BEPC ont zéro en dictée. C'est donc la dictée qui tirait par le bas les résultats du BEPC et les autorités d'antan ont jugé utile de supprimer la dictée pour rehausser le taux de réussite au BEPC. Mais nous avons jugé que la dictée joue un rôle fondamental dans le développement de l'intellectuel et à ce moment, nous avons nos conseillers, nos inspecteurs pédagogiques ont réfléchi et ensemble, on a décidé d'un type nouveau de dictée. Nouveau chez nous, mais qui se fait déjà ailleurs. En Afrique de l'Ouest, ce même type de dictée qui consiste à proposer aux élèves un texte erroné. Et maintenant, c'est les élèves qui vont détecter les fautes. Et c'est à eux de corriger le texte dicté.
Y a-t-il une grande différence entre ces deux types de dictées?
Non, c'est pas la même chose. Là-bas, on dicte. L'élève, naturellement, il est appelé à écrire correctement tous les mots. Alors qu'ici, il a tout le texte devant lui, sauf que le texte comporte toutes les difficultés, qu'il s'agisse du subjonctif, qu'il s'agisse de l'accord des verbes, qu'il s'agisse de la concordance des temps, etc. En fait, c'est les objectifs qu'il faut voir. Les deux types de dictées ont le même objectif, c'est cultiver l'attention des élèves.
Selon vous, est-ce que ce nouveau type de dictée a porté ses fruits? Les élèves se sont bien adaptés?
Nous sommes à notre première session. 2018 serait la deuxième. Et nous, techniciens, nous étions satisfaits des résultats. Ce n'était pas tout à fait les mêmes notes que si c'était la dictée traditionnelle. Et nous pensons que d'ici peu, les enfants vont s'habituer à ce type d'exercice. Nous allons évaluer la réforme et à ce moment, nous serons en mesure de répondre s'il faut continuer dans ce type-là ou s'il faut changer.
Et c'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite Alassane Kouzi pour le forum du studio Kalangou.